Que le nom du Seigneur soit béni. Nous venons de chanter « Le ciel est ouvert ». Et c'est vrai que lorsque Jésus est mort sur le bois de la croix, le ciel s'est déchiré. Et pourtant la Bible nous enseigne aussi qu'il peut être des reins au-dessus de notre tête, il peut être fermé. Alors je voudrais lire avec vous un texte dans l'Évangile, dans les Actes plutôt, au chapitre 9 et verset 31, un texte qui nous indique deux attitudes de cœur pour avoir l'assistance du Saint-Esprit. C'est ça dont nous avons besoin, l'assistance du Saint-Esprit. Actes, chapitre 9, verset 31. Dans un contexte où l'Église était en difficulté, où l'Église était persécutée, elle n'était pas en difficulté, parce que la bénédiction du Saint-Esprit, la bénédiction de Dieu reposait sur l'Église. Il y avait une persécution, mais regardez ce qui est dit dans les Actes, chapitre 9, au verset 31. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Et ce petit mot, cette conjonction, indique ce qui a amené la crainte et la paix. Et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs, nous voulons que le ciel soit ouvert. Nous voulons que les gens soient sauvés. Nous voulons que les pécheurs viennent. Nous voulons que les âmes soient guéries. Jésus-Christ est le même. Le temps des miracles n'est pas terminé. Le temps des visitations du Saint-Esprit n'est pas terminé. Si d'un côté, c'est clair, il est écrit que les temps seront difficiles, il est aussi écrit que dans les derniers jours, le Saint-Esprit remplira les cœurs, que les hommes et les femmes seront touchés par la grâce divine. C'est évident. Oui, nous serons de toute façon amenés à faire un choix. L'Apocalypse se termine avec un avertissement des plus terribles, que celui qui est saint se sanctifie, que celui qui se souille se souille. C'est des paroles terribles dans la bouche du Seigneur Jésus. Ce sont des paroles profondément sévères et que n'importe quel chrétien devrait presque pleurer devant ces paroles. Il sait qu'il a un choix à faire devant l'apostasie, devant l'iniquité, devant le flot de ténèbres qui se répandent, devant les plaisirs de la vie. Il y a un choix à faire, où nous nous souillons et nous sommes dans l'incapacité d'amener la vie de l'Esprit, où nous nous sanctifions et la vie de Saint-Esprit peut se manifester dans l'Église. Oui, c'est un verset très simple, un verset très court, mais qu'il nous dit ce qu'il faut faire pour avoir l'assistance du Saint-Esprit. Et je pense vraiment, à moins que vous fassiez partie de ceux qui découvrent l'Évangile, que si vous êtes en Jésus-Christ, vous voulez payer le prix pour que l'assistance du Saint-Esprit soit dans la maison du Seigneur, non seulement ici, mais dans les autres églises de cette région. Oui, nous l'avons vu mardi dernier, Jésus le dit, « Je suis celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or ». Nous voulons que Dieu marche au milieu de nous. Ce soir, le Seigneur peut-il agir au milieu de nous? Le Seigneur peut-il parler? Le Seigneur peut-il guérir? Le Seigneur peut-il délivrer? Y a-t-il pas des chrétiens qui ont besoin de libération? Moi, je crois que oui, que des chrétiens ont besoin d'être libérés, peut-être que de la timidité, mais ça peut être un verrou suffisamment gros pour empêcher la personne d'exprimer un ministère que Dieu lui a donné, un service, si vous préférez. Mes frères et sœurs, nous avons un Dieu qui délivre. Le Seigneur, il est capable de délivrer ce soir un de ses enfants qui a besoin d'une nouvelle expérience avec lui. Oui, Dieu marche dans l'Église où il y a les 7 chandeliers d'or. Dieu marche là où on respecte sa parole, Dieu, où on honore sa parole, de la même manière que la tiédeur des Laodicéens avait réussi à mettre Jésus dehors. Une chose est sûre, il marche là où on respecte sa parole. Regardez ce verset, vous connaissez ce texte dans 2 Corinthiens, on l'a vu l'autre jour, ce texte qui nous montre que Dieu marchera au milieu de nous. C'est un texte que l'on doit prendre avec beaucoup de cœur. Est-ce que nous voulons vraiment que Dieu marche au milieu de nous? Est-ce que nous voulons vraiment payer le prix pour que Dieu marche au milieu de nous? Parce que c'est facile de dire « Ah mais Dieu, il fait ce qu'il veut ». Non, Dieu, bien sûr qu'il est tout-puissant, mais dans son Église, il a choisi d'agir par des hommes et des femmes qui vivent dans la sainteté. Vous connaissez ce texte dans 2 Corinthiens au chapitre 6. Le Seigneur le dit à partir du verset 16, la deuxième partie du verset 16, « Nous sommes le temple du Dieu vivant ». 2 Corinthiens chapitre 6 verset 16b. Nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu. Ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père. Vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Et le chapitre 7 commence avec une condition, ayant donc de telles promesses, ah oui, c'est des promesses, que Dieu marche au milieu de Dieu, de nous, c'est une belle promesse. Bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Nous voyons que si nous voulons que Dieu marche dans l'Église, que Dieu manifeste sa grâce dans nos maisons, parce que l'Église, nos maisons aussi, c'est l'Église. Est-ce que nos maisons peuvent être l'Église? Eh oui. Lorsque nous vivons dans la sainteté, dans nos maisons, nos maisons deviennent des églises. Alors, je crois vraiment, mes frères et sœurs, que le Seigneur, il veut nous amener plus loin. On a dit, Lucas le disait tout à l'heure dans les chants, est-ce que vraiment nous avons soif de Dieu? Est-ce que nous voulons que le Saint-Esprit, ce grand jour, se lève encore dans l'Église? Est-ce que nous sommes prêts à payer ce prix? Est-ce que nous voulons vivre dans la paix? L'Église était en paix, elle était persécutée, l'Église. Et pourtant, elle était dans la paix. Vous savez, Jésus a dit, avant d'aller sur la croix, il a dit que le diable, c'était un voleur. C'est un voleur. Il est là que pour voler, égorger et détruire. Le but du diable, ce n'est que cela, détruire, égorger et voler. Voilà le seul but de Satan, de détruire l'Église. Et un des moyens, c'est de voler la paix. Je ne sais pas si vous avez déjà perdu la paix, ça peut arriver. Ça peut arriver que le diable arrive à nous voler la paix. Mais s'il y a bien une condition qu'on appelle sine qua non pour voir le Saint-Esprit se manifester, nous devons être en paix les uns avec les autres. Nous devons rechercher la paix. C'est écrit de rechercher la paix, et oui, de poursuivre la paix. Ce sont des verbes actifs qui nous montrent que nous pouvons perdre la paix parce qu'on a une contrariété, parce qu'il y a une tribulation, parce qu'il y a une épreuve, si ce n'est qu'une, parce qu'il y a la maladie, parce qu'il y a le deuil, parce qu'il y a les attaques de l'ennemi. Est-ce que vous ressentez parfois les attaques de l'ennemi? Est-ce que ça vous arrive de sentir ce combat spirituel, cette oppression de l'ennemi? Est-ce que ça vous arrive? Oui. Quelque part, c'est bien, parce que ça prouve que vous voulez faire l'œuvre de Dieu et que l'ennemi essaie de vous décourager. Mais le diable est un voleur. Il va essayer de vous voler la paix, il va essayer de vous voler le zèle, il va essayer de vous voler l'espérance, il va essayer de vous voler l'assurance, et on pourrait multiplier les vertus que le diable veut nous voler. C'est un voleur. Et si vous regardez certains textes dans l'Ancien Testament, vous verrez combien certains ont dû redoubler de courage pour retrouver tout ce qu'ils avaient perdu. C'est un voleur. Il y a des chrétiens qui ont tout perdu. Ils ont même perdu la joie du salut. Je sais ce que c'est. Ça m'est arrivé à une époque où j'avais de l'amertume dans mon cœur. J'avais même perdu la joie du salut. Que même quand je lisais « Réjouissez-vous de ce que votre nom est inscrit dans le livre de vie », eh bien, je me disais « Mon pauvre, même là, tu peux même pas te réjouir du salut de ton âme ». Vous voyez que le diable, il peut aller loin et nous voler certaines choses. Et l'Église primitive est notre modèle. Il n'y a pas besoin d'aller chercher en Corée ou aux États-Unis. C'est écrit dans Ésaïe que ce n'est pas de l'Orient ou de l'Occident. C'est d'en haut que vient le réveil. C'est du ciel que vient le réveil. C'est pas à droite ou à gauche. Et je voudrais, mes frères et sœurs, que nous comprenions une chose, que nous devons absolument travailler à ce que la paix soit notre partage. Parce que quand on est en paix, eh bien, on peut procurer la paix. Quand on n'est pas en paix, eh bien, on fait du mal, on fait de la peine, on fait du chagrin et on ennuie les gens. Alors que quand on est en paix, le Saint-Esprit peut se manifester au milieu de nous. Oui, nous devons procurer la paix aux autres. Nous sommes dans un monde extrêmement compliqué et les choses ne feront pas en s'arrangeant. Les choses iront en s'aggravant. Ça va aller très loin, cette affaire de la paix. Regardez avec moi dans l'Apocalypse. Dans l'Apocalypse, lorsque l'ouverture des sceaux commence, c'est au début de la colère. C'est au chapitre 6. Vous connaissez ce texte, c'est l'ouverture des sceaux, c'est normalement après l'enlèvement de l'Église. Lorsque l'Église est enlevée, il va y avoir des choses terribles qui vont venir sur la surface de la terre. Alors certains font partir l'enlèvement de l'Église au chapitre 13, d'autres à partir du chapitre 6. Mais enfin, c'est pas le sujet de ce soir. Mais une chose est certaine, mes frères et sœurs, Apocalypse chapitre 6, c'est l'ouverture des sceaux. On va lire à partir du chapitre 6, verset 3. Quand il ouvrit le deuxième sceau, j'entendis le deuxième être vivant qui disait « Viens !» Et il sortit un autre cheval, roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgent les uns les autres et une grande épée lui fût donnée. Et c'est au verset 17 qui est dit « Mais le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister ?» Voyez ce qui va se passer après l'enlèvement de l'Église, le Saint-Esprit sera enlevé parce que l'Église sera enlevée, même s'il agira au travers des 144 000 qui vont évangéliser parce que la grâce de Dieu demeurera en partie sur l'Église, parce que beaucoup de rétrogrades vont revenir à Dieu. C'est cette fameuse grande foule qui est sauvée pendant la grande tribulation. Mais mes frères, il n'empêche une chose, c'est qu'il viendra un jour sur la terre, il y aura un fléau terrible, la paix sera enlevée. Mais aujourd'hui, vous avez la paix. Vous pouvez avoir la paix, vous pouvez retrouver la paix. Ce soir, n'importe qui parmi nous peut dire « Seigneur, je prends la paix que tu me donnes ». Jésus, avant de mourir, vous savez, il aurait pu se plaindre, il aurait pu s'apitoyer. Il a dit « Je vous donne ma paix ». Vous vous rendez compte? Je vous donne ma joie. Vous vous rendez compte tout ce que Jésus leur a dit, leur a donné avant de mourir? Il aurait pu leur dire « Ouais, vous allez tous m'abandonner ». Quoi que ça, il leur a dit, mais tous l'ont abandonné. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il donne la paix. Je ne sais pas où vous en êtes, je ne sais pas trop où on en est, mais une chose est certaine. C'est que si Jésus dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, je ne donne pas comme le monde donne. Oui, comme on l'a chanté, le monde, il essaie de nous faire croire qu'il peut nous rendre joyeux. Il essaie de nous... Oui, c'est, vous le savez que c'est du mensonge. Le monde, il ne peut pas donner de bonheur. Il n'y a que Jésus qui donne la véritable paix, la véritable joie. Alors, s'il y a des choses qui enlèvent la paix, s'il y a la... Oui, parce que l'affection de la chair, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui est écrit dans Romains? L'affection de la chair, c'est... C'est la mort. C'est la mort. Et l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Et je suis persuadé que si nous laissons le Saint-Esprit nous conduire, chacun, si nous le laissons travailler nos cœurs, si nous le laissons nous montrer petit à petit certaines choses, eh bien nous allons avoir cette affection des choses de l'esprit. Et la paix sera la preuve de la présence de Dieu, parce que ce n'est pas une paix mondaine, une paix éphémère, c'est une véritable paix. Lisez les chapitres avant, lisez les chapitres après, et vous verrez que les chrétiens de l'Église primitive, ils n'en avaient rien à faire de la persécution, ils étaient remplis de feu. Au contraire, ça a mené la bénédiction de Samarie en Judée. Dieu avait manifesté sa puissance parce que la paix était terrible. Je lisais dernièrement le témoignage d'un homme qui a mené le réveil dans une ville en Italie, et je ne sais pas si c'est lui, mais en fait, je sais que ça s'est passé à cette époque. Quand il a été brûlé, parce qu'il avait amené tellement et tellement, tellement de gens au Seigneur, que les religieux l'ont fait brûler sur la place publique, et il a appelé le bourreau, il a dit au bourreau, mets ta main sur mon cœur avant d'être brûlé. Et le bourreau, il a vu que son cœur battait tout lentement, qu'il n'avait pas peur. Il a dit, tu sais, moi je suis content, je vais au ciel. Et le bourreau s'est converti, le gars qui a mis le feu au bûcher. Mais c'est lui d'ailleurs qui le raconte dans un livre. Mais pour vous dire que quand il y a la paix, ce n'est pas une paix. Parce que nous, la paix, si on n'a vraiment jamais eu la paix de Dieu, on peut la penser que c'est une paix superficielle. L'Église était en paix. Mes frères et sœurs, si vous l'avez perdue, ce soir, Dieu veut vous la donner. Si vous l'avez perdu, et s'il y a quelque chose qui est fait que vous ayez perdu la paix, parce qu'il y a eu un problème, parce qu'il y a eu un conflit, eh bien, comme dit la Bible, va te réconcilier avec ton frère, avant de présenter ton offrande, va te réconcilier. Est-ce que ça peut arriver, ça, d'avoir besoin de se réconcilier? Ben oui, ça peut arriver. On n'est pas meilleur que les autres. Mais faisons-le, car s'il y a bien quelque chose que le diable fera, c'est de nous enlever la paix. Pourquoi tant de chrétiens ont été rétrogradés? Parce qu'ils ont perdu la paix. L'Église était en paix. Ce soir, mes frères et sœurs, si nous voulons voir le réveil, si nous voulons voir l'assistance du Saint-Esprit, si nous voulons être assistés du Saint-Esprit, si nous voulons le voir agir, comme on l'a vu, moi j'ai reçu plusieurs mails, vous avez entendu dimanche après-midi le témoignage de cette sœur qui a été guérie en plein culte. Je crois que c'est un encouragement, vraiment c'est un encouragement. Mes frères et mes sœurs, nous devons absolument veiller à rechercher la paix, à poursuivre la paix. C'est Job qui dit, mais attache-toi à Dieu et tu auras la paix. C'est important. Un des textes que j'ai utilisé souvent ici, c'est dans Philippiens, au chapitre 4. L'apôtre Paul est en prison, il est dans la joie. Il est dans la joie, pourquoi? Parce qu'il n'est pas en prison, il est assis avec le Seigneur, vous le savez. L'apôtre Paul est en prison, mais c'était conduit par Dieu pour qu'on ait toutes ces épîtres merveilleuses. Dans Philippiens, au chapitre 4, vous connaissez ce texte. Au verset 6, il y a des choses pour qu'on ait la paix. On peut perdre la paix. Je sais, je l'ai déjà perdue. Et je sais que c'est pénible de perdre la paix. Quand on aime Dieu, c'est une frustration terrible. Philippiens chapitre 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien. Est-ce que c'est facile? Allez répondre. On baisse la tête, on répond. Est-ce que c'est facile? Bon, vous avez répondu. Ne vous inquiétez de rien. Non, ce n'est pas toujours facile. Mais en toute chose, en tout, absolument tout, mes frères et sœurs. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, et regardez la suite, avec des actions de grâce. Ça veut dire qu'il y a une vraie foi, Seigneur, je te fais connaître mon besoin, mais je te remercie aussi. Il n'y a pas que la supplication, il y a aussi les actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et regardez, ce n'est pas fini. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Vous voyez comme on a besoin de rendre nos pensées captives. Et ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, croyez-le. Ah non, pardon. Pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. Tout à l'heure, avec un frère, on parlait de vraiment de la différence entre accepter, d'adhérer intellectuellement à une vérité et puis de l'expérimenter. Et je crois que le diable, là aussi, a réussi à voler certaines choses parce qu'il nous a fait croire que parce qu'on adhérait à une vérité, mais ce n'est pas parce qu'on adhère à une vérité qu'on la vit. Alors mes frères, mes sœurs, apprenons ces choses et la paix de Dieu sera là et le Dieu de paix sera avec nous. C'est ce que nous voulons, que Dieu soit au milieu de nous. Oui, l'Église primitive était dans la paix. La deuxième chose que l'Église primitive vivait, eh bien, c'est qu'elle s'accroissait, bien sûr, par l'assistance du Saint-Esprit, mais vous avez vu qu'est-ce qui se passait? Elle marchait dans la crainte du Seigneur. C'est quand même un autre problème, ça. La paix, bon, c'est sûr que la paix, tout le monde la veut, la paix. C'est pas vrai? Tout le monde veut la paix. Même on est tous prêts à payer le prix pour avoir la paix. Tous, on est capable de se réconcilier avec quelqu'un pour avoir la paix, parce qu'on est les premiers bénéficiaires de cette bénédiction. Tous, on est capable de dire, ben oui, je vais quand même payer le prix, je vais arrêter de m'inquiéter, parce que je sais que la paix de Dieu est attachée à cette attitude. Mais la crainte, il n'y avait pas que la paix dans l'Église primitive. Il y avait cette crainte respectueuse. Le respect des choses de Dieu, le respect de la parole, le respect de Dieu par rapport à tout ce qu'il demande. Alors là, c'est vrai qu'on attaque un sujet très compliqué, mais qui dépend, je pense, des révélations. Je pense que Dieu peut se révéler. Quelqu'un me disait cette semaine, eh bien moi, il y a quelques mois de ça, Dieu m'a vraiment montré, et c'est un exemple qui va vous aider, Dieu m'a vraiment montré qu'il fallait que j'arrête de jouer à la console. Vous voyez, je ne sais pas ce que c'est, mais je sais que c'est des jeux. Ce frère est arrivé à un moment de sa vie où le respect des choses de Dieu, la progression des choses de Dieu l'a amené à cette conviction. Et je crois que Dieu agit progressivement dans notre vie. Et que quand Dieu nous montre quelque chose, il faut le faire. On ne peut pas imposer à certaines choses, à certaines personnes, il te faut arrêter de faire ci. Mais je crois que le Saint-Esprit peut vraiment nous montrer quelque chose qui fait obstacle à la croissance spirituelle. Le Saint-Esprit peut vraiment nous le montrer. Alors au début, c'est sûr, ce sont des choses qui sont banales, comme le tabac. Au début, vous vous rappelez les premières choses que le Saint-Esprit vous a montrées au début? Est-ce que vous vous rappelez les premières choses? Vous vous rappelez pas? Qu'est-ce que Dieu vous a montré au début, que vous deviez vous débarrasser? Oui, aidez-moi. Vous rappelez certaines choses, non? Le mensonge, voilà, par exemple. Oui, c'est quelque chose de grave. C'est sûr que si Dieu a mis 5 ans pour vous montrer que le mensonge, c'était un péché, moi je vous avoue que c'est grave. Je vous avoue que c'est profondément grave. Je me demande où vous en êtes au niveau de votre conversion. Il y a des choses, voyez, Jérémie dit, le mensonge, c'est vrai que le Seigneur nous révèle certaines choses. Peut-être que 3 ans après, ça va être la jalousie. Vous voyez, il y a une différence quand même entre le mensonge et la jalousie. Vous comprenez la différence? Et il y a une progression. Alors, que Dieu nous préserve de ne rien imposer, parce que je ne crois pas que nous, on a le droit d'imposer. C'est comme quelqu'un disait un jour, un pied de maïs, quand il fait 20 cm, on ne va pas y tirer dessus pour le faire repousser plus vite. Qu'est-ce qu'on ferait si on tirait sur un pied de maïs? On le tuerait. Et c'est vrai. Et c'est vrai que des fois, nous, on voudrait faire pousser les gens plus vite que la nature. Mais je crois par contre que la crainte de Dieu, lorsqu'on est devant sa face, même dans un moment comme celui-ci, comme ce frère me disait tout à l'heure, vraiment, j'étais convaincu qu'il fallait que j'arrête de jouer à la console. C'est une conviction, c'est sûr que moi, si je vous dis vous jouez à la console, ah ben arrête d'y jouer. Bon, ça, Dieu peut utiliser un frère, une sœur, pour vous montrer quelque chose. Mais lorsqu'on a la crainte, lorsque vraiment on a la crainte de Dieu, je suis convaincu que le Saint-Esprit nous montre les choses. J'en suis convaincu. On parlait de mensonges, on parlait de tabac, on peut parler, je ne sais pas, ça peut être la vulgarité. Il y a des choses vraiment grosses, comme la grossièreté. Il y a des choses, il n'y a pas besoin de 6 ans de conversion pour que Dieu nous montre certaines choses. C'est des choses après, peut-être plus pointues, les opinions. Par exemple, moi, il y a quelques années encore, bon, ça va faire 34 ans que je suis converti, les opinions, pour moi, ça avait beaucoup d'importance. Puis maintenant, je vais vous assurer, je ne me disputerai pas avec vous pour les opinions. Pourquoi ? Parce que pour moi, ce n'est pas important. Je pense que la vérité, c'est plus important que nos opinions à nous. Mais vous voyez ce que je veux dire ? Bon, mais les opinions, Dieu ne me l'a pas montré les 3 premiers mois de ma conversion. Ça s'est passé il y a quelques années. Pourquoi ? Mais parce que je pense qu'il y a des choses que vraiment le Saint-Esprit veut nous montrer. Et c'est là, mes frères et sœurs, que je veux en venir, que nous soyons sensibles dans les détails que le Seigneur veut nous montrer. Pour terminer, je prendrai le meilleur exemple. Je pense, le meilleur exemple, c'est quand David a voulu ramener l'arche. Vous connaissez cette affaire, David, cet homme selon le cœur de Dieu, qu'est-ce qu'il fait lorsqu'il obtient la royauté? Il ne s'intéresse pas aux routes ou à l'armée. Quand il trouve la royauté, quand il obtient la royauté, il veut faire ce qui est important, ramener l'arche de Dieu à Jérusalem. Parce que l'arche de Dieu symbolise la présence de Dieu. C'est ce que nous voulons aussi. Est-ce que ce n'est pas ce que nous voulons? Que la présence de Dieu soit dans l'église. Quand je chantais tout à l'heure, le grand jour s'est levé, je priais dans mon cœur. J'ai dit, Seigneur, que ce jour revienne dans l'église. Que ce grand jour revienne dans l'assemblée, dans nos assemblées. Mais ça ne va pas se passer comme ça, parce qu'on chante le grand jour s'est levé avec beaucoup de ferveur. Ça va se passer parce qu'on va se dire, mais c'est vrai, si tu assistais l'église primitive, c'est parce qu'il y avait des vertus telles que la paix et telles que la crainte. Et David en plus, était un homme selon le cœur de Dieu. Il réunit ses chefs, il réunit ses conseillers, il réunit ses chefs militaires. Il dit, voilà, vous savez pas, j'ai une idée. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça serait pas bien de faire revenir l'arche à Jérusalem? Ah, bien sûr, ça vient, c'est bien, c'est une bonne idée, tout. Et ils le font revenir. Et vous savez ce qui s'est passé? Beaucoup d'effervescence, beaucoup de joie. C'est clair, ça pouvait pas être autrement. Et quand l'arche s'est penchée à cause de l'infructuosité du terrain, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Un jeune homme a fait ce que nous aurions fait, nous l'aurions tous fait, tous nous aurions fait, nous aurions eu le réflexe de retenir le char, tous nous l'aurions fait, n'importe qui l'aurait fait. Et bien, ce gosse, il est mort, enfin, ce jeune homme, il est mort. Et David a été profondément peiné de ce qui s'est passé. Pendant 3 mois, il est resté dans l'affliction, vous connaissez cette affaire, mais il a cherché Dieu. Il a cherché Dieu, vous connaissez l'affaire, on peut peut-être juste lire, c'est dans 1 Chronique au chapitre 15, quand il réagit, ce sont des choses importantes, mes frères et sœurs. Elles ont été écrites pour que nous aussi, nous puissions dire, mais nous voulons l'assistance du Saint-Esprit. Enfin, qui veut l'assistance du Saint-Esprit? Sérieusement, ce soir, ne répondez pas, mais qui parmi nous peut vraiment dire, je veux expérimenter de la manière la plus concrète que Dieu voudra, en fonction des révélations que je reçois, je veux expérimenter l'assistance du Saint-Esprit. Vous savez, David s'est fait piéger. L'homme selon le cœur de Dieu, l'homme béni de la part de Dieu, qui a eu ses hauts et ses bas. Mais 1 Chronique chapitre 15, bon, le temps a passé. David se bâtit des maisons dans la cité de David. Il prépara une place. Il y a une préparation. Vous savez, ramener la présence de Dieu dans l'église, ça demande de la préparation. Ça ne va pas venir comme ça, même si Dieu peut bénir vite. Il prépara une place, moi je le dis maintenant pour nous, à la présence de Dieu, et dressa pour elle une tente. Alors David dit, l'arche de Dieu ne doit être portée que par les Lévites, car l'Éternel les a choisis pour porter l'arche de Dieu et pour en faire le service à toujours. Il a dû lire dans le livre des Nombres, où c'était écrit, et voilà, et au verset 13, « Parce que vous n'y étiez pas la première fois, l'Éternel notre Dieu nous a frappés, car nous ne l'avons pas cherché selon la loi. » Verset 26, ce fut avec l'assistance de Dieu que les Lévites portèrent l'arche de l'Alliance de l'Éternel. Et la suite, bien sûr, est bénie. Voyez, nous ne l'avons pas cherché selon la loi. Nous sommes là, nous aimons le Seigneur. Et ce n'est pas parce que nous vivons dans la dispensation de la grâce que nous pouvons nous autoriser à vivre les choses n'importe comment. Oh, ben c'est pas grave s'il y a ceci, s'il y a cela. Oh, c'est pas grave si je mens, c'est pas grave. Pardon Seigneur, je ne vais pas à l'église. Oh, ben c'est pas grave, pardon. On prend tout à la légère, comme si la grâce était une couverture. La grâce, elle nous enseigne à vivre selon la piété. Et franchement, nous voulons l'assistance de Dieu, nous voulons voir la puissance du Saint-Esprit, mais nous devons chacun d'entre nous, moi à mon niveau, vous au vôtre, si vous êtes convertis depuis 6 mois, eh bien c'est bien, mais le Seigneur va vous montrer quelque chose, ce sera peut-être les consoles, vidéos, j'en sais rien, mais c'est tout ce qui ne vient, tout ce qui empêche cette communion avec Dieu doit être tué. On doit s'en débarrasser. Mais laissons le Saint-Esprit nous conduire, parce que moi je crois que bien des réveils ont été coupés à la racine, parce que l'homme a mis son grain de sel, et l'homme a voulu imposer ainsi, et il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Moi je me souviens d'une chrétienne qui a fait un mal terrible, elle disait aux gens, en plus elle disait aux gens, oui, si on veut le réveil, il ne faut pas que les femmes mettent un pantalon, il ne faut pas que les femmes mettent un pantalon, des nouveaux qui venaient à l'église. En plus, elle, quelques années après, elle est venue à l'église en pantalon. Vous voyez un peu la conviction. Mais le résultat, c'est que ce sont des pierres d'achoppement. Ils ont tellement voulu le réveil pour eux, ben si elle avait la conviction qu'il fallait mettre des robes, ben elle mettait des robes. Je lui dis, c'est pas un problème ça. Mais je pense pas qu'on impose ses convictions. Par contre, on cherche Dieu. Et Dieu nous fait faire des expériences nouvelles. Moi, je crois qu'on peut faire des expériences nouvelles. On parlait tout à l'heure avec Jonathan dans mon bureau, quand Pierre, Jacques et Jean ont été amenés par Jésus. Parmi les 12, parmi les 70, Jésus en a pris 3. Il les a pris, pourquoi 3 ? Ben parce que c'était comme ça. Il les a pris et ses 3 frères ont vécu ce que Jésus a vécu à la montagne de la Transfiguration avec Élie et Moïse. C'était une expérience, ils n'ont jamais dû l'oublier. Non, d'ailleurs, il en reparle plus tard. C'était une expérience extraordinaire. Et je suis persuadé que notre soif de Dieu va déterminer de nouvelles expériences. Et vous savez, quand on a fait des expériences avec Dieu, on est marqué par ces expériences. Et ça nous garde. Et ça nous donne envie d'en faire de nouvelles. C'est pas vrai ? Est-ce que vous avez envie de faire des expériences nouvelles ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit ce soir, mais Seigneur, mais comme David l'a fait, dans une situation où ça n'allait pas trop bien, il a dit, mais dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Ça se fait pas comme ça. Mais vraiment, je crois que le Saint-Esprit est assez grand pour nous montrer à chacun la prochaine chose qui doit être corrigée, qui doit être modifiée. Tu vois, Seigneur, ça me fait du mal, ça me fait du tort, eh bien, tu vas m'aider. Est-ce que vous croyez que Dieu va nous aider ? L'assistance du Saint-Esprit, c'est un mot qui est choisi par Dieu lui-même et qui indique bien qu'il va nous aider, il va le faire. Mais si nous voulons voir Dieu marcher au milieu de nous, si nous voulons vraiment voir la puissance de Dieu comme nous l'avons vu, il y a une jeune fille aussi, jeudi soir, qui a été bénie par le Seigneur. Vraiment, elle donnera aussi son témoignage. Moi, ça m'encourage à veiller à ce que chacun d'entre nous, nous puissions dire, mais moi, je ne veux pas être un obstacle dans l'église. Je ne veux pas être un obstacle. Vous savez, il y a 2 ans de ça, je me rappelle, un garçon de l'église m'a dit, mais vous savez, ce frère, il dépouille les offrandes, il distribue la Sainte Cène, il est grossier. Moi, je ne l'aurais pas cru. Et comme le frère qui me l'a dit était un frère sérieux, j'ai dit au frère, j'ai trouvé le frère, je dis, mais est-ce que c'est vrai que vous êtes vulgaire et que vous êtes grossier? Il me dit, oui, je suis comme ça, mais c'est à prendre ou à laisser. Et j'ai dit, mais frère, je suis désolé, vous ne pourrez plus distribuer la Sainte Cène. Et vous ne pourrez plus dépouiller les offrandes. Oh, c'est pas un mot grossier qui va... J'ai dit, comment ça ? J'ai dit, je suis désolé. Je crois qu'un chrétien, il marche dans la sainteté. Alors, c'est facile. Oui, mais vous comprenez, je bosse avec... Écoutez, moi, je n'y crois pas, ça. Je crois que le chrétien, c'est la lumière du monde. Le chrétien, c'est le sel de la terre. Et un chrétien, je crois que s'il a le Saint-Esprit, il pourra avoir la victoire en tout et partout, comme on le chante si souvent. Moi, j'ai apprécié tous les cantiques qu'on a chantés. Est-ce que vous voulez que le grand jour se lève sur Toulouse ? Eh bien, mes frères et sœurs, si Dieu l'a fait avec eux, il le fera avec nous. Ne croyons pas que Dieu a des préférés, des chouchous. Si Dieu l'a fait avec les chrétiens de l'Église primitive, il le refera avec des hommes et des femmes qui sont capables de dire, eh bien oui, la paix, je veux la paix. Eh bien, je vais la trouver. Et Dieu va me montrer ce qui m'a fait perdre la paix. Croyez-moi, Dieu va me montrer comment la crainte peut augmenter dans mon cœur. Et je crois que David a cherché, et il a lu dans les nombres. Ah, mais c'est pendu, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il y a sur l'arche, il y a des petits anneaux. Ah, les petits anneaux, les détails, on s'en fiche aujourd'hui des détails. La grossièreté, on s'en fiche. Jérémie me racontait l'autre jour, moi ça m'a brisé le cœur, que dans un conseil d'administration, un membre a insulté un pasteur. C'est pas toi qui me l'as dit, hein? Non mais mes frères et sœurs, quand on en arrive là, il n'y a aucune crainte de Dieu. Déjà d'insulter un frère, je pense que ça ne se fait pas. Un pasteur peut-être encore moins quand même, je pense qu'il y a le respect, même si on doit tous respecter, se soumettre les uns aux autres. Mais moi je ne me vois pas en train d'insulter le pasteur de l'église, je ne me vois pas. Je ne dis pas ça parce que je suis pasteur. Je dis ça sérieusement, je ne me vois pas en train d'insulter un ancien. Même si je n'étais pas d'accord avec lui, je ne me vois pas. Et après les gens, oh mais c'est pas grave. Oui, les détails, les petits anneaux dans les barres, ça paraît ne pas être grave. Eh bien, ça a fait toute la différence. Il ne fallait pas porter sur un char, il ne fallait pas porter à notre façon. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas à notre façon, ce n'est pas à notre guise. Oh, il faut faire comme si. Si on veut gagner des gens, il faut faire ci. Si on veut gagner des gens, il faut faire... Non, non, non. Si on veut gagner des gens, il faut vivre dans la sainteté, il faut prêcher la croix et il faut vivre dans l'obéissance à la parole de Dieu. Car le Saint-Esprit, il est donné à ceux qui obéissent. David ne s'est pas laissé décourager, il a cherché Dieu, il connaissait Dieu. Il connaissait Dieu. C'est parce qu'on connaît Dieu qu'on connaît tout. Et il a dit, oh, il ne faut pas porter l'arche comme ça. Il faut respecter la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, si chacun, je parle à ceux qui sont baptisés, si vous êtes baptisés d'eau, si vous avez pris l'engagement de vous repentir, de vous convertir, cette prédication, elle est pour vous. Et nous pouvons tous dire, Seigneur, je suis d'accord. Je vais faire en sorte que la crainte de l'Éternel grandisse dans mon cœur. Ce que tu vas me montrer, je vais le faire. Moi, ce n'est pas moi. Moi, pour moi, je dois me tenir devant Dieu. Et Dieu va peut-être montrer. Moi, ce ne sera pas la console, ça c'est sûr. Mais ça peut être autre chose. Est-ce que vous croyez que Dieu peut me montrer encore des choses dans ma vie qui ont besoin d'être changées? Bien sûr. Eh bien, mes frères et sœurs, si dans la présence de Dieu, nous nous tenons la paix et la crainte de l'Éternel conjuguées l'une à l'autre dans un esprit vraiment de sérieux, parce que l'œuvre de Dieu, le salut des âmes, c'est sérieux. La politique, que ce soit un tel ou un autre, pas grave, ça ne change rien. Mais l'Église, c'est le salut des âmes. C'est le salut de nos enfants. C'est le salut de nos petits-enfants. C'est le salut de nos amis, de nos ennemis. Est-ce que nous voulons que des âmes soient sauvées? Eh bien, mes frères et sœurs, il n'y a qu'une alternative. Il faut l'assistance du Saint-Esprit avec une véritable crainte, pas une crainte théologique qu'on peut expliquer. Moi, je peux vous prêcher sur la crainte pendant 2 heures ou 3 heures. Je connais des centaines de versets, avec la concordance la parallèle, je vous fais une étude de 3 heures sur la crainte. Mais il n'est pas question de faire une étude théologique sur la crainte. C'est une question d'expérimenter, moi le premier, la crainte de l'Éternel. Et nous aurons les mêmes effets, nous aurons l'assistance du Saint-Esprit. Et je crois que ce que Dieu veut, si d'un côté, comme je l'ai dit en introduction, des multitudes se perdent et des multitudes de chrétiens choisissent l'iniquité, il y aura aussi des chrétiens qui vont choisir la vie de l'Esprit, qui vont choisir l'obéissance au Saint-Esprit et qui verront la gloire de Dieu se manifester au travers de leur vie qui auront choisi de marcher dans l'obéissance à la parole de Dieu. Fermons les yeux quelques instants, mes frères et sœurs. Fermons les yeux et demandons à Jésus cette grâce. Jésus sait où vous en êtes. J'ai parlé de la console, ça s'est présenté parce que ce frère m'en a parlé, mais pendant quelques instants, là, quelques secondes, le Saint-Esprit n'est-il pas capable de te montrer, de me montrer ce qui fait obstacle à la prière? Et j'aimerais qu'on rechante ce beau cantique, le grand jour s'est levé. Est-ce que vous voulez que le grand jour se lève sur Sainte-Agne, sur cette église? Alors, Seigneur, augmente la paix dans mon cœur. Redonne-moi la crainte de l'Éternel. Je t'aime, mais en même temps, les choses du monde sont là. Mon âme est souillée par certaines choses. Seigneur, montre-moi. Le Seigneur va vous le montrer. Je vais donner l'occasion également, pendant ce cantique, s'il y a quelqu'un qui désire avoir une victoire, une délivrance. Est-ce que Dieu est un Dieu qui délivre? Est-ce que Dieu est un Dieu qui guérit? Est-ce que Dieu est un Dieu qui restaure? Oui, mes frères et sœurs. Et si quelqu'un avait le besoin de venir sur le devant, eh bien venez pendant ce cantique. Et vous, à votre place, priez ou chantez. Mes frères et sœurs, utilisons ces quelques instants pour laisser le Saint-Esprit nous interpeller. Car croyez-le, il y aura la même cause, les mêmes effets. S'il y a la crainte de Dieu dans le cœur de l'Église, s'il y a la paix de Dieu dans le cœur des chrétiens, il y aura l'assistance du Saint-Esprit, que son nom soit béni. Amen.